J'entends des voix avec Luc Fortin et Christiane Campagna.
Christiane Campagna.
Luc Fortin.
Maurice Bolduc.
Bonjour.
Comment allez-vous? Tous les deux?
Ça va encore?
Moi, je vais très bien.
Moi aussi, merci de poser la question. C'est gentil de te soucier de mon bien-être, Christiane.
On n'a pas eu le temps.
En fait, j'ai pensé à deux choses en même temps, ce qui n'est jamais une bonne chose à faire. J'avais le temps de parler au micro. C'est comme ça que je fais mes meilleurs lapsus aussi.
Ah bon, mais c'est divertissant en général.
Mais mon plus célèbre étant, ici Christiane Campagna au micro-ondes.
Ah, c'est bon!
Ouais, je l'ai fait plus d'une fois.
C'est très, 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 très bon. 16 décembre aujourd'hui, l'avant-dernière de 2019, il sera question de balado d'enquête avec, entre autres, Julien Morissette, avec qui on va s'entretenir un peu plus tard à l'émission.
C'était mon baptême pour moi.
Oui, t'es pas très balado d'enquête et pourtant tu n'avais pas écouté. Alors, tu savais déjà que t'aimais pas ça avant d'en écouter et...
Ben, en fait, c'est
t'es
que
pas
quand...
sûr encore, hein?
C'est que quand votre liste de balados à écouter, tu sais, il y en a qui ont des piles de livres non lus.
Ouais.
Moi, j'ai une longue, longue liste de balados non écoutés. Ben là, un nouveau genre vers lequel t'es pas spontanément porté, ben ça finit toujours par se retrouver au bas de la liste. Et là, ça prenait une entrevue comme celle-ci pour me donner le petit coup de pied au derrière nécessaire pour écouter mon premier balado.
Moi, c'est quand tu vas voir vraiment qu'on fasse des balados sur la bouffe, là. Ouh, j'ai trouvé ça difficile. J'avoue.
Il y en a un que j'en écoute un seul et je l'adore.
Ben, il y a celui avec, c'est-tu Bernard Lavallée, là, qui est à Radio-Canada, On déjeune, on s'appelle On déjeune, quelque chose comme ça. C'est un beau titre, mais ça parle de bouffe. C'est pas. En tout cas, c'est pas cette semaine, heureusement. Tu veux nous parler de quoi, là, avant qu'on arrive à Julien?
Ben, justement, le temps des fêtes approche.
C'est vrai.
Je me demandais si toi, ça change tes habitudes d'écoute. Est-ce que tu te prépares à écouter des séries que tu retardais à écouter?
Je vais te décevoir parce que, comme tu sais, je suis pigiste et je travaille très peu. Ce qui fait que j'ai autant de temps, ou presque, de disponible pendant la vie en général que pendant le temps des fêtes, de un. De deux, le temps des fêtes est pour moi une partie irritable de l'année. Donc, c'est sûr que je ne vais pas écouter des balados sur le temps des fêtes, même si c'est des messages touchants du Père Noël ou tout ça, là, comment vendre des sapins à New York, ou il me semble que je les ai tous entendus. Alors, pour moi, ce sera du pareil au même. Quand j'ai fini d'écouter ce que j'ai à écouter, je vais dans parcourir sur l'application de iTunes. Et là, je regarde, est-ce qu'il y a des nouveaux balados québécois? Est-ce qu'il y a des choses que je m'étais dit la dernière fois? Ah, ça pourrait m'intéresser. Et là, je pars vers une autre direction. Mais non, pas vraiment. Pas plus, pas moins.
Et moi, je dirais qu'une bonne partie de mon écoute de balado est liée à des routines quotidiennes. Et j'ai donc des routines d'écoute de balado. J'écoute les balados en me préparant le matin, en m'en venant, en revenant du travail. Et c'est une routine dans laquelle j'ai de la difficulté à rentrer les longues séries.
Ouais.
Le matin, j'écoute beaucoup de balados d'actualité. Il y a d'autres. Ensuite, passent sans priorité les balados qui, selon moi, vieillissent vite souvent. Bon, là, je dis balado, je parle aussi d'émissions de radio. Uh-huh. J'écoute principalement de cette façon-là. Je pense, par exemple, à On dira ce qu'on voudra.
C'est vrai que ça vieillit. Tu sais, oui, on veut savoir ce qui se passe là.
La première année, je l'ai découvert sur le tard et j'ai écouté toute la saison.
Ah oui, t'es folle.
Mais j'avais pas une longue liste de balados dans ce temps-là.
Okay.
C'était avant ma découverte du balado
ça,
américain.
4 fois semaine, dans le temps, c'était 5 fois semaine.
Oui.
Quand t'arrives en retard, là, ça fait du rattrapage.
C'est à l'époque où tout ce que j'écoutais en gros de balado ou presque était des émissions de Radio-Canada,
d'accord,
en fait.
D'accord.
Donc, c'est difficile pour moi de mettre les plus longues séries et c'est ce à quoi je compte consacrer du temps pendant le temps des fêtes.
Surtout que, comme tu le soulignes, les balados traitant d'actualité vont sûrement ralentir là, parce que l'actualité va ralentir.
Qu'ils ralentissent ou pas, moi, je pense que j'ai besoin d'une petite pause. J'ai atteint mon plateau là, d'impeachment fatigue.
Oui.
Vraiment, là, autant je peux être passionnée par la politique américaine, autant souvent on se perd en conjecture. Pendant qu'il ne se passe rien, souvent les balados d'actualité se perdent en conjecture. Et qu'est-ce qui pourrait arriver maintenant?
Ouais.
Et ça me plaît moins. Il y a par contre une série de Tommy Veter de Crooked Media qui est sur les caucus de l'Ohio. l'historique, pourquoi ça commence toujours par là? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que ça devrait L'Iowa. Changer? Ouais, okay. Pour les primaires. Surtout que c'est un processus un peu particulier. C'est pas des caucus. Là. Les gens doivent être sur place absolument. Et en tout cas, je serai peut-être en mesure de te l'expliquer mieux au retour. Celui-là, j'allais dans mes réserves. J'ai aussi le transmission.
Ah oui.
De Daniel Desrochers.
Ouais.
Puis aussi du rattrapage, justement, de balados que je mets de côté parce qu'ils vieillissent plus facilement, dont deux de mes premiers amours, le fameux Stuff You Should Know, mm-hmm. un balado qui existe depuis 2008, que j'ai jamais l'intention de rattraper, hein, ça n'arrivera jamais.
Ouais.
Ils sont rendus à plus de 1400 épisodes et ils se retrouvent encore régulièrement dans le top 10 des téléchargements d'iTunes, notamment. Et aussi un...
Oui, mais quand c'est une quotidienne, c'est sûr qu'il c'est y a un avantage.
Non, ce n'est pas une quotidienne. Non! Ils ont 3 épisodes par semaine.
Et ils sont dans le top 10.
Oui, ils sont très populaires. Ils sont très, très populaires.
Impressionnant.
Parce que les animateurs sont attachants. Peu importe le sujet dont ils parlent, ils sont très attachants. C'est aussi le cas d'un autre balado qui parle de bouffe, celui-là, Luc. Qui s'appelle Savor, qui est né sous le nom de Food Stuff, qui est animé par... Annie Reese et Lauren Vogelbaum. Et elle aussi, c'est beaucoup la dynamique entre les deux qui rend ça intéressant. Et aussi, peut-être parce que ça vient chercher plus ce qui, moi, m'intéresse. C'est pas un balado à propos de cuisine. Là. Mm-hmm. C'est l'histoire et la science et les chiffres derrière un aliment. Donc, combien il s'en va aux États-Unis à chaque année.
Ah oui, OK.
Ça peut être un cocktail, ça peut être un aliment, ça peut être un mets. Et même, ils ont des épisodes de fiction foods, comme la bière au beurre de Harry Potter, si tu veux. Et à chaque fois, ils ont réussi dernièrement...
Au beurre, ça va être gras, ça.
Ils peuvent... Et des épisodes de 40 minutes, à peu près, sur chacun de ces aliments-là. Alors, oui, je compte renouer avec ce balado.
J'hésite à suggérer mes séries. Je vais peut-être le faire, tiens, après l'émission, simplement parce qu'on va effectuer... à la rentrée, notre, disons, palmarès ou retour sur les balados qu'on a vraiment appréciés en 2019 et que l'on suggère aux gens. Et j'aurais peur de me répéter, parce qu'évidemment, ce que je vais te suggérer d'écouter pendant les fêtes, c'est ce que je vais dire aux gens d'écouter au retour. Donc, voilà.
On pourra faire le tour aussi des différents palmarès, parce que c'est le temps de l'année où il en sort plein. Je ne les ai pas inclus dans ma revue de presse d'aujourd'hui, mais autant du côté du Québec, de la France, des États-Unis, c'est la saison des palmarès, non seulement de meilleurs balados, hein, et d'épisodes aussi.
Ouais. Ben d'ailleurs, on a parlé de récréation beaucoup plus tôt cette année avec Mélanie, avec Émilie Perrault, qui, elle, avait produit avec eux et Cube Radio « Pourquoi Julie ?». Et Élodie Gagnon va également se joindre à nous le 6 janvier prochain. Là. Elle qui, à peu près toutes les semaines, lorsque possible, offre des suggestions d'écoute. Donc là, on va lui demander de faire le dur travail de choisir dans tout ce qu'elle nous a suggéré. Disons, je sais pas, ce sera-tu un top 5, un top 10, un top quelque chose, là, mais on va jaser avec Élodie de tout ça.
On pourra quand même demander à Julien Morissette, qu'on a déjà au bout du fil, c'est quoi son coup de cœur cette année?
Mais j'ai
presque... Je soupçonne que c'est quelqu'un qui en écoute quand même.
J'ai presque envie de demander à Julien, Maurice, est-ce que tu... ou Christiane, est-ce que tu tiens à ton Benny Goodman pour Noël, pont musical, ou est-ce que...
Ah, ben
tu...
c'était pas un Benny Goodman, okay. C'était juste la bande-annonce,
ah,
en
ben
fait,
allons-y,
de Synthèse
allons-y
2.
Avec Synthèse 2e, saison 2, puis ensuite on jasera à Julien pour savoir... Comme dirait Rebecca McConnell, les 10 raisons pour lesquelles on devrait s'abonner à Synthèse.
Si tu veux commencer en te présentant.
Marie Pinault, coroner, depuis 2008.
Quand j'ai fait la connaissance de Marie Pinault, la coroner du cas Valérie Leblanc, j'ai compris que je n'étais pas le seul à avoir été marqué par le meurtre. Marie m'a raconté que non seulement c'était son premier cas d'homicide, mais que les circonstances de la mort de Valérie lui rappelait étrangement la mort de sa meilleure amie, Louise Chaput.
Le jeudi 15 novembre 2001, Louise Chaput s'est rendue au Mont Washington pour une randonnée pédestre de quelques jours en solitaire. S'inquiétant de son absence, son conjoint a signalé sa disparition le lundi suivant.
Chaput's body was discovered a short distance off the Glen Boulder Trail a week later.
Elle est morte poignardée, mais on ne peut dire à combien de reprises.
Une femme tuée en plein jour dans la forêt. mutilé, brûlé et enseveli sous un tas de branches.
Je me rappelle de tout. Je pourrais faire un film.
Je ne sais pas si c'est la coïncidence entre les deux crimes ou la détermination de Marie qui m'a influencé, mais je tiens à revenir sur l'enquête du cas Louise Chaput pour comprendre.
J'espère qu'un jour, on va trouver qu'est-ce qui s'est passé.
Mais la police n'est pas active. Je suis certain que c'était un dossier mis sur une tablette.
Comprendre comment ça se fait que 18 ans après le meurtre, on n'ait pas réussi à trouver le coupable.
Est-ce un geste gratuit commis par un inconnu ou un meurtre prémédité? Les deux possibilités sont envisagées.
Salut, Julien Morissette.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Très bien, merci. Et vous?
Ouais, c'est gentil, gentil. C'était, disait Christiane, son baptême en termes de balado d'enquête. J'ai envie, moi, tiens, première question, là, paf, comme ça, sans préavis. Pourquoi un balado d'enquête quand la personne est déjà morte, quand c'est difficile, contrairement, supposons, à Serial, où là, on voulait aider quelqu'un qui est en prison à améliorer sa qualité de vie? Parce que souvent, on fait le lien, lorsqu'il est question de balado d'enquête, avec Serial. Puis moi, je trouve que c'est assez différent.
Oui, c'est vrai que c'est différent. En fait, ce désir-là de parler de sujets de la sorte est né avec la saison 1, avec le Cavalier Leblanc, parce que c'est un crime qui est survenu en Outaouais en 2011, au cégep que je fréquentais. J'avais des amis en commun avec la victime, avec Valérie Leblanc. Donc, ça faisait 7 ans que c'était un peu une obsession pour les gens de la région. Le cas Valérie Leblanc a vraiment marqué des esprits ici à Gatineau. Donc, pour nous, c'était le meilleur véhicule narratif, disons, la balado, pour faire un retour sur l'enquête, parce qu'en 7-8 ans, il s'était dit tellement de choses, il y avait tellement de rumeurs qui couraient que nous, et quand je parle de nous, c'est Steven Boivin et moi qui a co-réalisé la saison 1, c'était juste de faire un peu de ménage dans tout ça, puis d'essayer d'offrir un portrait global et limpide de la situation, parce que nous, on a eu le nez dedans quand c'est arrivé en 2011. C'était vraiment une histoire policière qui a pris tout le monde par surprise et qui a fasciné les médias et la population en Outaouais. Puis on avait besoin de ce temps-là pour prendre du recul et voir ce qui s'était passé. Là, pour la saison 2, qui est en ligne depuis 2 mois, c'était vraiment une suite étrange, en fait, après les liens qu'on a bâtis avec Marie Pinault, la coroner du Cavalerie Leblanc, là, comme on l'entendait dans la bande-annonce. Donc, l'objectif pour répondre à la question, c'est vraiment de donner une espèce de portrait, finalement, le plus fidèle possible et de faire... de revenir et de faire un bilan, disons, de l'enquête, parce que nous, on se place jamais en position de justicier ou d'enquêteur. On veut vraiment documenter les événements et l'enquête policière pour essayer éventuellement de soit faire de délier des langues ou de rappeler des souvenirs ou de faire avancer le cas pour pas que ça tombe dans l'oubli. C'est ça l'objectif ultime.
Vous avez eu une belle participation là, de ses parents, de ses amis. Est-ce que les gens sont difficiles à convaincre?
Ben, c'est sûr que c'est délicat quand on parle aux membres de la famille. Il y a du travail, il y a une relation de confiance à établir. Puis ça, je comprends tout à fait les proches des victimes de vouloir bien comprendre notre travail. Plus on avance, disons, dans les saisons, dans les cas, moins c'est compliqué, disons, de les convaincre, parce que on fait tranquillement, pas vite, nos preuves et on montre que notre démarche n'est pas, du moins on l'espère, là, sensationnaliste, et qu'on essaie de ramener toujours un peu d'humanité dans ces cas-là, parce que ça devient, on dirait que dans le discours médiatique, il y a un détachement par rapport aux victimes, surtout quand ça fait plus de 10 ans que le crime n'a pas été résolu. Donc, il y a toujours cette relation de confiance-là à établir, et nous, de notre côté, quand on parle aux proches et aux amis, on veut toujours que les gens soient à l'aise avec ce qu'on dit, la façon dont on décrit les événements, qu'on décrit les relations. Donc, on essaie de faire ça dans le plus grand respect possible, mais je dirais que le médium audio fait en sorte que les gens sont vraiment plus prêts à embarquer, parce que on a le temps d'aller en profondeur, on a le temps d'aller poser plus de questions que ce qu'on fait avec un topo télé qui est plus court. Ce qui fait en sorte que les gens sont vraiment plus prêts à nous accueillir et à parler avec nous. Puis c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui, autant dans le cas de Valérie Leblanc que dans celui de Louis Chaput, il y a beaucoup de gens qui, pour la première fois, ont voulu briser le silence, nous parler, parce qu'on prenait le temps de bien faire les choses et on n'arrivait pas avec une grosse équipe de tournage, un kit d'éclairage. On est là avec une enregistreuse, un micro, puis on prend le temps de parler.
On sent dans la saison 2 que les policiers du New Hampshire sont peut-être plus hésitants à, disons, travailler en partenariat avec vous que les policiers de Gatineau.
Ouais.
Les gars du New Hampshire disent, ben nous, on n'est pas habitués, c'est rare qu'il y ait des projets comme ça dans notre coin. On peut pas dire que les gens de Gatineau étaient très, très, très habitués non plus. Je veux dire, le balado d'enquête est assez nouveau chez nous au Québec.
C'est vrai.
Qu'est-ce qui fait que... Est-ce que c'est la langue? Est-ce que c'est la culture? Ou c'est juste une méfiance qui a pris un certain temps à, disons, à débloquer, parce qu'à la fin, ça s'est bien terminé, là, mais...
Oui, ben c'est, le dialogue est ouvert en ce moment avec les policiers du New Hampshire. Il y a surtout le sens du devoir qui est différent pour nous, étant une équipe de... Ben pour les policiers, là, disons, qui s'adressent à une équipe à Gatineau, dans leur ville, dans leur région. Puis l'intérêt public pour cette question-là est assez énorme, encore même... si on parle du cas de Valérie, il y a même 8 ans plus tard. Donc, eux ont comme pas le choix.
Ouais.
Ils auraient eu l'air fous d'éviter de répondre à nos questions. Puis ils l'ont fait de façon assez laconique. Là, c'était pas pour nous les grandes déclarations. C'était pas en sortant du bureau de la police, on n'était pas nécessairement excités par ce qu'ils nous avaient révélé.
Okay.
On n'avait pas grand-chose de plus, mais au moins, on a eu l'heure juste de leur côté. Tandis qu'au New Hampshire, ben, eux sont vraiment habitués de voir des blogs, des documentaires et des balados qui sont faits de façon assez amateur. Donc, nous, on essaie de respecter des principes, des normes et pratiques journalistiques, parce que l'équipe de synthèse est formée de journalistes et de réalisateurs qui ont travaillé dans les médias, ou qu'ils font toujours, que ce soit pour Radio-Canada ou d'autres médias. Donc, il y a toujours ce souci-là d'avoir... des faits, d'être le plus objectif possible et d'avoir une rigueur, tandis que eux répondent souvent à des demandes d'entrevue venant de gens qui sont un peu des enquêteurs du dimanche. Puis j'ai rien contre ces projets-là, mais on s'inscrit juste pas dans cette lignée-là. Nous, on essaie tout simplement, comme je vous disais, de faire le portrait global et d'avoir des réponses, d'avoir des faits. Mais je peux comprendre la méfiance de leur côté. Puis, tu sais, les détectives nous disaient que souvent, ça vient un peu ajouter des obstacles quand il y a des gens qui se mettent à nommer des gens, à essayer
c'est
de
sûr.
Trouver. Donc, pour eux, je comprends, mais ils nous ont bien dit lors de notre rencontre, il y a environ un mois au New Hampshire, que ça peut être une arme efficace aussi pour résoudre des crimes. Donc, il y a toujours cette relation de les médias ont besoin de la police et la police a besoin des médias pour transmettre les informations. Puis nous, étant Québécois, étant francophones, donc on partait avec une prise de plus parce qu'on n'était pas des journalistes locaux, mais on a eu beaucoup, beaucoup d'aide de la part de journalistes qui ont couvert le cas au New Hampshire. Donc ça, il y a un travail de collaboration vraiment riche qui s'est fait.
À la fin, justement, ils vous disent que un balado comme le vôtre, une enquête de cette sorte-là, ça pourrait contribuer à refaire parler des gens.
Oui.
Sauf qu'il reste qu'il y a quand même un obstacle, c'est que ce crime-là s'est déroulé au New Hampshire.
En anglais.
Est-ce que ça vous tente? Est-ce que ça a allumé quelque chose chez vous? Est-ce que vous avez presque envie d'en faire une version en anglais?
Ben, c'est sûr qu'on pense à ça depuis les débuts. Puis on a même dit à la famille, on aimerait ça être capable de communiquer toute cette information-là en anglais. Pour nous, c'était un double défi parce qu'il y a beaucoup d'intervenants qui nous parlent en anglais, donc on s'est posé souvent la question comment on inclut les témoignages en anglais dans notre série qui s'adresse principalement à des francophones au Canada. Mais après ça, justement, en discutant avec Chuck West, le détective, il disait il y a beaucoup de gens qui comprennent le français au New Hampshire, puis on a parlé à des gens en français là-bas. Et il y a beaucoup de randonneurs. T'sais, nous, on a reçu tellement de courriels de Québécois qui se rendent souvent dans les White Mountains, au Mont Washington, qui connaissent bien l'endroit. Puis il y a une communauté de marcheurs là-bas qui est assez forte. Donc, ça aide déjà un petit peu, mais c'est sûr qu'on pense toujours à une façon de de communiquer ces informations-là. Oui. Et étant donné qu'on est assez bilingue dans l'équipe, on aimerait peut-être ça, éventuellement prendre cette information-là et l'offrir dans un contenu dans un canal anglo, disons.
Ouais, surtout que ça peut être pertinent et positif pour Transistor Média, là.
Absolument, oui, ah oui, c'est ça. Étant donné qu'on est basé à Gatineau, qu'on fait des contrats déjà en anglais à Ottawa et tout, c'est juste qu'on essaie d'ouvrir certaines portes avec le Canada anglais ou les États-Unis, disons, pour développer des projets éventuellement, parce que là, notre diffuseur, c'est Cube pour ce projet-là. On travaille beaucoup avec Radio-Canada en français, on travaille avec Télé-Québec aussi, mais il y a du défrichage à faire, là, si on parle d'un point de vue plus de développement d'affaires pour nous, avec les producteurs de balado et les diffuseurs anglophones au Canada et aux États-Unis.
Julien, comment se passe un petit peu la dynamique du balado? Est-ce que... je pense à Someone Knows Something, je pense est-ce que les gens, il est permis d'appeler quelqu'un et de dire « Hey, toi, là, je t'ai entendu, t'as-tu des trucs à me donner? Comment tu fais? » Où chacun est un peu concurrent de l'autre et, Julien parle pas trop souvent à Stéphane Berthomet ou bien, mon Dieu, la dame qui avait fait sur les filles, la sexualité à Montréal, en tout cas, c'est ça. Dieu, que c'était bon ça. Alors, tu sais, là, chacun fait ça en vase clos.
Ben, moi, c'est peut-être que c'est naïf de ma part, mais nous, on est toujours dans une approche de dialogue, toujours très ouvert, notre façon de travailler. Stéphane, je le connais un peu moins, mais je connais très bien Cédric Chabuel qui réalise L'ombre du doute et Disparu, et Histoire d'enquête et tout ça. Donc, Cédric et moi, on se parle régulièrement, on se donne du feedback. Moi, des fois, j'y envoie des trucs pour qu'il me dise ce qu'il en pense. Toujours dans cette idée-là de, je sais pas, d'améliorer l'industrie, le médium. Ouais. Puis moi, ça fait juste 4 ans que je réalise des balados, donc j'ai encore beaucoup à apprendre. Donc, quand il y a des gens qui nous posent des questions d'un peu partout au Québec sur l'industrie, sur les façons de fonctionner, sur les manières de scénariser, de monter, ben nous autres, on est toujours dans une approche très ouverte. Même chose pour le dialogue avec Picbois qui a produit la série Trafic. C'est des gens de qui on est proche, des gens de qui on a appris beaucoup de choses. Puis ça, c'est un peu dans l'ADN de Transistor Média, surtout grâce au festival, je dirais, parce que là, on fait le festival Transistor en Outaouais depuis 2017. On va être à notre 4e édition. Puis on invite toujours les producteurs de contenu et les diffuseurs à venir à Gatineau pour présenter, échanger. Puis nous, on est toujours dans cette approche-là. Puis c'est pour être très honnête, on avait des motifs pécuniaires ou juste de faire de l'argent, de la profitabilité, on n'aurait pas choisi le balado non plus parce que c'est pas le milieu le plus lucratif pour l'instant.
Oui, à peu près tout ce monde-là, de toute façon, on est tous pigistes. Alors, on n'a pas intérêt à se fermer des portes. On ne sait jamais dans un an et demi avec qui on va vouloir travailler.
Exactement. Ce qui fait en sorte que nous, on est toujours dans cette approche-là d'ouverture. On envoie des trucs, étant donné qu'on est plus loin, on se fait pas, disons, de séances d'écoute régulièrement avec d'autres réalisateurs ou d'autres artisans du milieu, mais quand j'ai des doutes sur un projet ou quand je veux du feedback, je vais envoyer ça à un André Martineau qui travaille à Radio-Canada ou à un Cédric Chabuel qui travaille pour des boîtes que certaines personnes pourraient voir comme étant concurrentes. Pour nous, honnêtement, tu sais, je dis que c'est un peu naïf, mais c'est vraiment ça l'approche, c'est de bâtir un écosystème solide de balado en français parce que en ce moment, la demande est plus grande que l'offre. Les gens sont vraiment curieux, veulent écouter des balados en français, puis j'ai pas l'impression qu'on est capable de fournir assez de contenu pour toujours les intéresser à écouter des trucs en français. Évidemment, on écoute pour la plupart ce qui se fait au Canada anglais, aux États-Unis, en Europe, un peu partout, mais je pense que ce serait bien que il y a de plus en plus de réalisatrices, réalisateurs, scénaristes, preneurs de son, monteurs qui puissent travailler la balado et en faire quelque chose une industrie dynamique au Québec pour que les gens d'un peu partout puissent constamment avoir de nouveaux produits, projets à se mettre dans les oreilles. Là, ce que Radio-Canada fait avec Audio en ce moment, il y a une espèce de gros boom de contenu. Fait que ça, on peut juste s'en réjouir de voir que les gens ont de quoi se mettre dans les oreilles.
Oui, tout à fait.
Il y avait un lien entre les deux premiers synthèses qui étaient Madame Pinault.
Oui.
Mais là,
la coroner du premier et l'ami dans le deuxième.
Voilà, exactement. Et là, est-ce qu'on peut penser qu'il va y avoir un synthèse 3?
C'est une très bonne question. On vient juste de, ben, comme vous en doutez, on vient juste de finir la production de la deuxième série. On a eu des chiffres récemment de Cube qui sont extraordinaires, les chiffres d'écoute.
Ah, vous êtes chanceux, nous autres, quand on veut des chiffres, ils en donnent pas.
Ben non, mais en général, c'est assez rare que les diffuseurs donnent des chiffres.
C'est sûr.
Je vais pas m'avancer parce que je sais même pas si j'ai le droit d'en parler.
Non, je pense pas.
Je pense pas, hein? Je vais faire attention à ce que je dis. Mais c'est super encourageant. Puis ce qui est intéressant avec les perspectives d'avenir, c'est que ben, plus le temps avance, plus l'équipe s'agrandit chez Transistor. Donc, on a des gens compétents qui peuvent mettre la main à la pâte. Je pense à François Larivière qui a fait le montage, le mixage, l'habillage sonore de la saison 2 qui a fait pour moi toute la différence. Boris Proulx qui était journaliste. C'est des gens qui n'étaient pas là la saison 1. Donc, quand on travaille avec eux, ça fait en sorte qu'il y a ce savoir-faire qui est partagé, puis qui me donne de l'espoir qu'on pourrait peut-être faire plus que deux saisons, parce que ben la saison 1, c'était Steven et moi, deux gars à Gatineau dans les bureaux de Transistor. On a passé un an et demi là-dessus. C'est très prenant émotionnellement, dans l'énergie. Je pensais pas faire une saison 2, mais avec l'équipe autour, ça nous a permis de faire la saison 2, donc c'est assez encourageant pour...
Beaucoup de kilométrages.
Ouais, ben c'est ça.
Hey, ça, c'est quelque chose. Gatineau, New Hampshire, régulièrement. Là, Boris Proulx, est-ce que vous allez le libérer pour qu'il puisse recommencer son petit guide du podcast? Parce que nous, là, on veut qu'il vienne nous en parler depuis... Mais là, c'est parce que c'est sur
la
tablette.
Mais en fait, Boris et François étaient occupés par synthèse.
Ah, c'est vrai, François aussi. Mais c'est François Larivière, oui. Ouais, donc là, on va revoir notre petit guide, là, bientôt, là.
Là, François, il est devant moi en ce moment. Je suis dans les bureaux de Transistor, puis il me dit « On n'a pas beaucoup de temps pour l'instant. Bon. » Parce que là, la semaine prochaine... Non, en fait, cette semaine, on sort une nouvelle série sur audio qui a été produite par Transistor, réalisée par Marie-Hélène Frenette-Assad.
Ouais.
On est en train de finir ça. Nouvelle série qu'on a enregistrée à Montréal avec Rosemée Autonne-Témorin. Là, les projets vraiment s'empilent sur nos bureaux. Là.
Mais qui s'appelle comment, la série?
Comme disait.
OK, OK.
Puis, une série qui a été développée l'année passée aux cartes blanches du Festival Transistor. On avait donné une carte blanche à Rosemée Autonne-Témorin, puis on a développé le pilote devant le public et Radio-Canada a acheté la série. Donc là, on est en production, puis ça sort dans les prochains jours sur Radio-Canada Audio. Donc là, ça va très bien par chez nous, on peut dire.
Julien, merci beaucoup. Il nous reste 20 secondes pour dire bonjour à tout le monde. C'est notre avant-dernière, ta dernière, Christiane,
oui,
parce que tu
ne seras
pas là lundi.
Moi,
il sera question de sport la semaine prochaine. Je vais achaler quelqu'un dans le corridor, là, puis on va parler de sport.